Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on monte des meubles. Bonjour Laetitia, allez.
Bonjour Thomas.
Bonjour Laetitia, ravie de vous retrouver.
Bon, faut-il vous présenter ? Vous êtes la Madame Déco de RTL. On vous retrouve tous les samedis et dimanches. C'est un peu avant 9h40. On va raconter la saga IKEA grâce à vous. Alors, avant de raconter l'histoire de son fondateur qui est mort le 28 janvier dernier, je voudrais.
Le 27. En fait, il est mort le 27, mais ça a été annoncé le 28.
D'accord. Voilà. Et on voudrait qu'on se balade dans la ville, le siège historique d'IKEA. C'est Stockholm ou c'est une petite ville ? C'est quoi ?
Alors, ville, comment vous dire ? Oui, j'y suis allée. Ça s'appelle Helmut. Ça s'écrit Helmut, mais ça se dit Helmut. C'est dans la province de Småland, en Suède. Et c'est au milieu des bois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bois, beaucoup d'espaces verts. De temps en temps, une jolie petite maison en bois avec une façade bien rouge, très belle. Mmh. C'est une ville vraiment toute petite. Je ne sais même pas si on peut dire une ville. C'est bizarre hein, quand on se retrouve là-bas. 75% de la population travaille pour la marque. Il y a une rue IKEA, un hôtel IKEA, un musée IKEA, tout est IKEA là-bas. Alors, le musée IKEA, il est situé, en fait, dans le premier magasin IKEA qui a existé. Très grand, 7000 mètres carrés, 3 niveaux. Au premier niveau, évidemment, c'est l'histoire d'IKEA, avec des meubles qui sont traités par décennies. Au niveau 2, il y a les arts traditionnels, avec les cuisines de l'époque, les métiers à tisser, etc. Et puis, au sous-sol, ce sont des expositions temporaires.
Il y a des... Oui ? Est-ce qu'ils cauchemardent IKEA ? Est-ce qu'ils font des rêves de meubles en kit qui arrivent jamais à leur...
Personne n'ose acheter un autre meuble. Non, mais quand on se balade dans la ville, on voit des bâtiments très, très modernes avec tous les designers et le staff. Oui. Il y a aussi un énorme hangar dans lequel ils réalisent les photos des catalogues. Il y a un autre hangar, on demande ce que c'est. Et là, c'est carrément la salle de sport pour les employés parce qu'ils sont très, très nombreux sur place. Et cette ambiance de travail, c'est un peu style Google. Vous voyez, il y a un endroit avec des cuisines, des très grandes marches, des coussins sur lesquels on s'assoit pour faire une réunion un peu informelle, en papotant, en buvant un café. Quand j'y suis allée, d'ailleurs, j'ai quand même demandé à Marcus Engman, qui est le directeur du design, un beau blond aux beaux yeux, comment ils faisaient tous pour trouver... comment ils faisaient, franchement, pour trouver leur inspiration dans un lieu aussi excentré, aussi reculé. Et il m'a répondu qu'IKEA, c'était du design simple et pratique, et que donc, c'était en adéquation avec leur façon de vivre. Parce que je peux vous dire que vivre là-bas, je sais pas, moi...
Oui, enfin, ils font toujours pas des femmes et des hommes en kit, hein, en tout cas.
Bah, bon,
qui était le fondateur, Ingvar Kamprad, un étudiant brillant ou bien un cancre doué pour le commerce ? Réponse dans un instant, les curieux.
RTL. J'aime bien ma petite chaise, le modèle Kriegebrück.
La curiosité est un vil défaut.
Tu vois, des bibliothèques Frugeburg.
RTL.
Moi, j'aime pas Ikea. Enfin, c'est pas que j'aime pas Ikea, c'est pratique, mais j'aime pas y aller, quoi. T'as que des femmes en train de dire à leur mari :
je te dis que c'est par là, les assiettes.
T'as que des mecs en train de dire à leur femme :
fais voir.
Ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le.
Denis Bonnec.
La saga IKEA dans la curiosité avec Laetitia Nallet. C'est vrai que ça inspire les humoristes. Là, c'était Gad Elmaleh. Et c'est vrai qu'on a tous vécu ça.
C'est vrai.
La bagarre, au magasin.
Pourtant, il y a des flèches. Si
oui,
les
mais
flèches.
Bon, c'est pas grave.
Oui, mais les magasins sont plans grands. Il faut faire tout le tour.
Et c'est vrai que des fois, ça rentre pas dans le coffre.
Mais
ça,
parfois,
on va raconter.
Moi, j'essaye de passer à travers les. Vous savez,
arrêtez, Sylvie, je vais vous faire raconter le montage de votre petite mini cuisine en kit, là. Cadeau de votre fille. Alors, on va commencer par la base IKEA. C'est un acronyme. Je crois. Ça veut dire quoi ?
Ah bah le I, évidemment, c'est le prénom de Ingvar. Le K, c'est son nom de famille, Kamprad. Le E, c'est le nom de sa ferme, Elmtarid. Et le A, c'est son village natal, Agundarid. Bon, après, je ne sais pas si j'ai vraiment l'accent suédois.
Ici, dans ce studio, en tout cas,
oui,
personne ne pourra contrôler. Donc, c'est son histoire personnelle, un peu résumée en quatre initiales. Il naît, Ingvar Kamprad, en mars 26. Son père est paysan. Est-ce que c'est un bon élève, le jeune Ingvar ?
Pas sûr, en tout cas il voyait son père s'échiner dans la ferme familiale et lui il s'est dit j'ai pas du tout envie d'avoir la même vie. Ouais. Donc à 17 ans, qu'est-ce qu'il fait le gaillard ? Et il remarque pas mal de choses autour de lui. Il se dit que dans son village, excentré, donc il va acheter, il manque de plein de produits. Alors il va les acheter par correspondance, il va acheter des graines, des bas en nylon, des allumettes, des cartes postales, tout ce qui manque aux gens, des stylos, voilà. Ensuite il les stocke dans son abri de jardin et puis il va les revendre aux voisins. Il passe un deal avec le laitier qui livrait avec sa petite charrette et lui dit tu iras livrer en même temps mes affaires en même temps que tu iras leur porter le lait. Et voilà, ça ce sont ses débuts pour dire qu'il avait vraiment le sens du commerce et là on est en 1948.
Oui, mais alors comment Ingvar Kamprad, qui est donc le créateur d'IKEA, a l'idée de ne vendre que des meubles ?
Alors ça va venir plus tard dans les années 40 et il va créer les statuts de son entreprise. Les meubles, ça va arriver progressivement. C'est plutôt au début des années 50 qu'il va penser à faire des meubles avec l'arrivée de la société de consommation. Malin Berlin, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, il va aller se fournir, là aussi, directement chez les fabricants. Et puis, il va essayer de baisser les prix au maximum pour vendre encore plus. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les boutiques de la région se mettent à boycotter, menacent de boycotter le fabricant en lui disant, si tu continues à vendre au petit malin, là, nous, c'est fini, quoi. Tous les alentours, on ne veut plus rien t'acheter. Donc là, il va falloir qu'il pense à autre chose, et c'est comme ça qu'il va avoir l'idée, effectivement, de créer des meubles, les dessiner lui-même.
Alors, en 49, je crois, Ingvar Kamprad lance la première brochure IKEA News. On reviendra sur le catalogue, parce que c'est une histoire en soi, le catalogue. Mais il y a aussi on comprend, 17 ans, il se lance dans le commerce. Il y a aussi un as du marketing dans cette histoire. Il joue très tôt la carte de la pub. Ça ressemble à quoi, sa première publicité marquante ? Une sorte d'appel au peuple, c'est ça ?
Ah bah, la pub, oui, il explique ce qu'il a compris, en fait, dans le principal quotidien de Suède. Il explique que les intermédiaires s'en mettent plein les poches et que lui, il veut squeezer les intermédiaires et vendre directement au prix du fabricant. Donc il fait un appel au peuple comme ça. Vous imaginez que les autres concurrents, ils sont juste hystériques. Et il va créer effectivement non pas un premier catalogue, mais d'abord une IKEA News. C'est une petite brochure de 4 pages qui va être tirée à 1500 exemplaires. C'est l'ancêtre de ce que va devenir le catalogue. Et elle permet comme ça aux familles qui sont reculées en Suède de pouvoir choisir leur mobilier sans avoir se déplacer à la grande ville.
Et tout ça, c'est le début d'un immense succès commercial pour le fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad. Est-ce qu'il est mort très riche ?
Vous avez besoin de la réponse, vous êtes sûr ?
Oui. Et je veux même les chiffres.
Évidemment, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, à la tête d'un empire, 8e fortune mondiale, 3e rang des milliardaires européens.
Pas mal.
403 magasins disséminés dans 29 pays, 190 000 salariés dans le monde, 38 milliards de chiffre d'affaires, 37 milliards pour lui, pour sa fortune personnelle. Ouais, ça va. Si vous aimez les chiffres, un dernier. Une étude de 2013 a révélé qu'un Européen sur 10 aurait été conçu dans un lit IKEA.
J'adore cette stat.
Un Européen sur 10, c'est génial.
Attendez, ils avaient des caméras.
Et dans une cuisine IKEA.
Ça marche aussi, elles sont solides.
Et dans une penderie aussi. J'ai pas d'idée, tiens.
Partout.
Laetitia, allez, on va revenir à cette histoire parce que Sidonie Bonnec est partie dans une autre direction. Avant de devenir un groupe mondial, IKEA s'est développé en Suède. Je crois qu'il faut raconter l'ouverture du premier magasin à Stockholm. On est en 1965, ça se passe comment ?
Alors, le premier magasin, il était situé en dehors de la ville. À l'époque, on disait qu'on achetait des terrains de patates. Et il avait une forme spéciale, puisqu'il avait une forme circulaire. Il avait été inspiré du Guggenheim Musée de New York. Ouais. Donc, 1965, il n'y avait pas d'hypermarché. Ça a été une véritable attraction. Il n'y avait pas de grande surface. Ce magasin, c'était un peu le Disney de l'époque. Première surface aussi grande, avec uniquement des produits autour de l'univers de la maison. Pas de concurrence, une foule énorme. On raconte que certains dirigeants imagine de faire payer à ce moment-là un droit d'entrée, mais ils ont vite laissé tomber.
Oui, parce qu'il y avait des curieux, forcément. Il y avait plusieurs dizaines, je crois 18 000 personnes.
18 000 personnes.
C'est ça,
oui. Mais les gens achètent de toute façon, donc ils ont laissé tomber cette idée. Et c'est dans ce magasin-là qu'on a vu apparaître le libre-service pour éviter les files d'attente.
Ah oui, c'est effectivement là aussi une bonne idée, parce que c'est vrai que l'ouverture d'un magasin comme ça, on se dit, tiens, je vais aller voir. Mais quand on est dans un magasin, il y a tellement de petits produits que même si on ne voulait rien acheter, on repart avec un sac plein.
Ah, mais IKEA, on repart toujours avec un bonne dépense.
C'est bien vu. Alors, vous l'avez évoqué rapidement, il faut développer ça. Ce succès a fait forcément des envieux en Suède. On vous raconte le boycott que la marque a subi. À tout de suite sur RTL. RTL.
Bref, j'ai monté un meuble.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le plan du meuble était super compliqué, mais il était à l'envers. Il était quand même compliqué. J'ai dit, il est où le tour de vis 23 fois. J'ai essayé de fixer la planche B à la planche D avec la vis B5, mais ça marchait pas. J'ai marché pieds nus sur une vis C2. J'ai dit des gros mots. Je me suis rendu compte que j'avais confondu la planche B avec la planche H, qui est pareil, mais avec deux autres trous sur le côté. Bref, j'ai monté un meuble.
La curiosité est un vilain défaut.
Le prêt à monter, cauchemar de certains clients et bonheur des humoristes comme Kian Kojandi dans Bref. Moi, j'ai monté une mini cuisine pour ma fille,
bravo.
Et j'ai perdu une vis. Moi, je suis sûre qu'ils n'ont pas mis la vis numéro 43.
Ils vérifient plein de fois.
Mais elle est où alors cette vis ? Ça m'inquiète. Elle est peut-être dans mon pied.
Il s'est déjà effondré là, le meuble. Je viens d'avoir l'info.
Sur
à l'instant.
Fille, combien de temps pour monter la cuisine ?
4h30, alors qu'apparemment, elle se monte en 2 heures. Franchement, c'est impossible.
Alors, c'est
vraiment,
pas
facile. oui, Sidonie, c'est tout.
On raconte cette saga IKEA, le fondateur IKEA avec vous, Laetitia Nallet. Quand et comment Ingvar, Kamprad a l'idée de monter et de faire des meubles en kit, parce que ça n'existait pas avant lui.
Non, en fait, c'est en 1955. Il sortait d'une séance de photos. Il était accompagné de Gillis Lundgren. C'est le designer de la première heure qui l'a accompagné, parce que Ingvar, il a toujours travaillé avec des designers. Hein. Et d'ailleurs, Gillis Lundgren, il est connu puisque c'est le créateur de la célèbre bibliothèque Billy qu'on a tous eu un jour. Donc Ingvar et Gillis sortent de cette séance photo et veulent mettre une table basse dans le coffre. Et là, ils se disent, mince, on ne peut pas fermer le coffre à cause des pieds. Bah, faudrait démonter les pieds. Bah oui, tiens, c'est une bonne idée ça. Si on faisait des meubles, en démontant les pieds. Et puis de là, ils réfléchissent, ils disent, carrément, on devrait faire des meubles en kit. Très bonne idée. Et des paquets plats. Comme ça, ça rentrerait dans le coffre et on n'aurait plus besoin de payer des livreurs pour aller porter les meubles chez les clients.
Ah, c'est génial. Mais ça, c'est génial, sauf quand on s'échine à les monter. Mais ça, c'est tout de suite dans l'histoire de la marque ou c'est plusieurs années après
C'est en 55. En fait, le premier paquet plat, il arrive en 1956. C'est la petite table en forme de feuille, 13 années 50. Mmh. Ça, c'est le premier meuble en paquet plat.
Et ça fait forcément râler les concurrents, c'est cette idée de meuble en kit. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils râlent?
Oui, c'est le boycott. Hein. Le boycott, et pas que les fabricants d'ailleurs. Hein. Il y a aussi l'État qui lui tape sur les doigts, qui lui dit ça suffit, parce qu'il vendait vraiment à bas prix. C'était le vendeur le moins cher de Suède. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, ok, c'est pas grave, moi je vais dessiner mes propres meubles. Au début, il les fait construire localement. Et puis très vite, il se dit, à partir de 1960, en fait, il se dit, non, je vais délocaliser, comme ça, je vais aller les faire là où c'est moins cher. Et il va les faire fabriquer en Pologne. Alors, vous voyez qu'il a toujours les idées avant tout le monde, finalement. Hein. Il ouvre un showroom où les consommateurs peuvent quand même venir voir les meubles, les tester. Et puis, il va distribuer le premier catalogue. Comme ça, le client passe commande. Et la marchandise est livrée et pas livrée. En fait, le client, très vite, va prendre ses meubles plats directement. Donc, lui, il n'a plus de frais de livraison. Il peut toujours tirer les prix vers le bas.
Ouais. Alors, vous parliez du catalogue. On peut en dire un mot maintenant, Laetitia Nallet. Aujourd'hui, le tout premier, vous l'avez dit tout à l'heure, 49, ça s'appelle IKEA News. C'est une brochure de 4 pages. Aujourd'hui, c'est un monstre. Enfin, si j'ose dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le catalogue. C'est quoi l'histoire?
Il y a 150 personnes qui sont mobilisées pendant 18 mois à donc Helmut, là-bas, au fin fond de la Suède. Mmh. Le catalogue, c'est énorme. C'est 203 millions d'exemplaires imprimés. Le plus gros tirage au monde pour ce type de publication. 30 diffusés dans 35 langues, dans 52 pays. Et on ne trouve pas tout, forcément, dans le catalogue.
C'est-à-dire qu'il y a une petite partie des produits seulement, c'est
Une petite partie, il y a seulement 30%. Ah bon? Parce qu'en tout, il y a 9500 références qui sont commercialisées. En revanche, ils mettent un point d'honneur à ce que les 30% représentés dans le catalogue se trouvent en magasin pour ne pas nous décevoir, évidemment, quand on va les acheter. Vous savez que la Bible, dans les pays nordiques, en Allemagne, aux États-Unis, tout ça, elle est très diffusée, on la trouve partout, notamment dans les chambres d'hôtel. Mmh. Eh bien, le catalogue IKEA est plus distribué que n'importe quel autre livre religieux.
Et alors, tous ces prénoms fleuris ou ces noms fleuris
facile à prononcer.
Oui, Bini. Alors moi, ma petite midi-cuisine, elle s'appelait Duptig. Je n'oublierai jamais. Ils viennent d'où ces noms? Réponse dans un instant sur RTL.
RTL.
De 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Huck.
Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, est mort le 27 janvier dernier. On découvre l'histoire de cette marque devenue mondiale grâce à Laetitia Nallet. Laetitia, c'est un plaisir de vous retrouver ici parce que vous êtes chez vous. Hein. Vous avez lancé l'émission
Mais oui, quand Sidonie nous faisait son petit bébé.
Ouais, voilà. Donc c'est un très bon souvenir.
Et maintenant, je fais des mini-cuisines. Bon, on va pas revenir là-dessus.
Ça fait plaisir de vous avoir dans le studio. La caractéristique d'IKEA, on peut pas raconter la saga sans parler des noms improbables. Enfin, difficile à prononcer pour les Européens du Sud que nous sommes, mais évidemment c'est plus facile pour les Nordiques. Ça vient d'où? C'est des lieux où ça ne veut rien dire?
Alors attendez, déjà la petite histoire raconte qu'Ingvar, il était dyslexique et que donc les références avec des chiffres, c'était pas possible, il s'en sortait pas.
D'accord.
Donc il a décidé de leur donner des noms. Ouais. Alors l'avantage des noms plutôt que des références, c'est qu'on n'a pas à taper les lignes de chiffres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les codes barres quand même. Et puis quand un client a des questions pour retirer ou doit retirer le produit, il dit juste le nom. Bon, pour le suédois, c'est facile. pour nous, c'est plus compliqué, c'est sûr. Vrai. Mais les noms, il y a toute une histoire, en fait. C'est que les textiles, par exemple, portent des prénoms féminins scandinaves. Les textiles de lit portent des noms de plantes ou de fleurs. Les meubles et accessoires de salle de bain sont des noms de lacs, de rivières, de baies scandinaves. Mobilier de jardin, nom d'îles suédoises.
Ah, moi, j'ai l'impression que c'était fait n'importe comment, qu'ils balançaient des noms comme ça, mais il y a un sens
c'est
à nos meubles.
Mais pas
du tout, exactement. Dans d'autres cas, le nom a un lieu direct avec l'usage du produit, comme groggy pour les accessoires de bar, crossa par exemple, qui veut dire écrasé en suédois, c'est un moulin à épices. Donc nous, on ne se rend pas compte. Alors, il faut savoir que ça a été donné aussi beaucoup de prénoms. Hein. Et il y a des personnes quand même qui ont été un peu en colère parce qu'on a donné leur nom à un porte-manteau ou un balai. Voilà, et ça ne leur a pas trop plu.
Oui, c'est sûr.
Il y a des noms qui ne peuvent pas être attribués à d'autres produits, comme le cas de Billy, hein, parce que c'est un tel succès que voilà, Billy, c'est que la bibliothèque.
Qui a succédé à Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, qui est mort le 28 janvier dernier?
En fait, il n'était plus opérationnel déjà depuis pas mal de temps. Il n'y a pas une personne à la tête, mais un comité de pilotage qu'il avait installé depuis les années 80, dont font partie évidemment ses enfants. Et tous ses enfants ont un rôle au sein du comité.
D'accord, mais son empire, je crois, ou alors vous allez m'en prendre, a jamais été coté en bourse.
Ah bah non, il voulait pas, il voulait garder le contrôle de son entreprise. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il réinvestissait les profits et en créant ce circuit fermé, bah, quand il y avait moins de croissance, on réduisait les coûts et on piochait dans la cagnotte. Et puis quand ça allait bien, ça allait bien. Chaque magasin IKEA est une franchise d'IKEA et reverse une franchise à Inter-IKEA, qui est le groupe de gestion d'IKEA. Donc voilà, il se débrouille tout seul.
Pendant cette saga, il y a forcément des zones d'ombre et notamment sur le passé d'Ingvar Kamprad. Quel a été son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale?
Alors, en fait, c'est pas une zone d'ombre parce que c'est sorti dans les années 80. Il a pris la parole, il a dit que c'était vrai et qu'il regrettait. D'ailleurs, dans le musée IKEA, on peut même lire un paragraphe là-dessus. Faut replacer ça dans son contexte.
Qu'est-ce qu'il regrette?
Il était dans une famille pro-hitlérienne, hein, donc voilà. Et le contexte, il est né en 26, Hitler arrive au pouvoir en 33, Ingvar a 7 ans, sa grand-mère venait des pays baltes, Hitler avait sauvé les pays baltes des loups soviétiques, donc la mamie, elle aimait bien Hitler, il a été élevé là-dedans. Et ça n'excuse rien, mais ça explique un petit peu voilà, ce qui est arrivé.
Et alors, on va terminer avec une info. On regardait ensemble, vous avez parlé de la première table basse, etc.,
belle, hein,
qui est d'ailleurs très belle. Il y a un marché des meubles d'origine, des tout premiers meubles fabriqués dans les années 50. Ça se vend cher aujourd'hui?
Oui, surtout parce qu'il y a des pièces qui ont été arrêtées, la production a été arrêtée. Oui. Alors, elles sont devenues rares et chères. Elles s'enflamment dans les ventes aux enchères. Il y a le modèle à queue avec le A et un petit rond au-dessus, très suédois. Ça, c'est très, très recherché. Et elle s'appelle aussi Clamshare. C'est un fauteuil avec un dossier très haut, comme des oreilles, vous voyez, vous êtes dedans, vous êtes bien enveloppé. Et bien ça a été vendu très très cher récemment aux enchères. Dans les années 90, IKEA avait édité une collection qui reproduisait mobilier et vaisselle du 18e siècle. Et ça aussi, ça se vend très cher aujourd'hui aux enchères. Donc si vous en avez, allez-y.
Merci Laetitia.
Merci beaucoup, on vous retrouve évidemment tous les week-ends à 9h, un peu avant 9h40 sur RTL pour Maison Jardin Cuisine Brocante. C'est dans la matinale de Bernard Poirette.
Vous écoutez RTL.